Alors je suis vraiment content que vous soyez là parce que j'espère faire reculer les limites de votre ignorance. C'est le rêve de tout prof. Bon. Donc c'est un parcours qui est illuminé par cette grande vérité que Jean-Paul II nous avait rappelée dans une encyclique, Fides et Ratio, qu'on a le droit et même le devoir de se servir de sa raison, non seulement pour faire des maths de la physique et de l'économie, mais dans le domaine religieux. Pourquoi ? Parce que tout l'évangile nous montre que Jésus n'a jamais dit à ses auditeurs « Croyez-moi sur mes beaux yeux », malgré le sacré regard que Jésus devait avoir. Jésus a multiplié les miracles pour montrer qui il était. Et juste il y a une minute, un couple me rappelait que je leur avais prêché une récollection en faisant intervenir une religieuse miraculée. Des miracles, il y en a des centaines dans l'Église d'aujourd'hui. Chaque fois que le pape fait une béatification, il faut un miracle béton. Seulement, la plupart ne se passent pas à Lourdes, parce que Dieu n'est pas pyrénéen. Vous voyez ? J'ai eu la joie d'aller, c'est la première fois que j'allais vraiment en Pologne, il y a 10 jours, j'étais à Katowice, là où le pape est né. Eh bien, ils ont eu la bonne idée dans le plafond de l'église où le pape Jean-Paul II a été baptisé, est rempli de fresques qui rappelle l'une de ses encycliques. Et l'encyclique Fides et Ratio est illustrée par la scène de l'Évangile où Jésus montre à Thomas qu'il est vraiment ressuscité. Bon. Alors nous allons voir, donc le curé d'Ars disait sans cesse, si on avait vraiment la foi, on croirait. Si on avait vraiment la foi, on aimerait Dieu. Les saints, ils sont formidables parce qu'ils osent croire à ce que Yves Le Sault nous a dit ce matin. La dernière fois que j'ai été évangélisé, c'est dans cette salle. Il y a quelques mois, je suis venu pour le 25e anniversaire de l'école d'évangélisation. Et Yves Le Sault nous a fait une magnifique homélie comme il sait l'enfer. Mais vraiment, je lui ai dit tout à l'heure, il faut continuer à être évêque comme ça. Il nous fait vraiment des topos tout simples, très profonds. C'est très très simple, hein. Bon, souhaitons que beaucoup de prêtres suivent son exemple pour prêcher. Mais on a chacun son genre, il ne faut pas... Bon, donc, nous allons voir 3 choses. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous débrouiller devant tous les mystères. C'est un topo que j'ai dû faire 200 fois dans ma vie. Et je fais le même topo pratiquement au CM2, et même au CE2 et au Polytechnicien. Bon. D'ailleurs, toutes les conférences que je fais ont comme origine les CM2 de Douai. Pendant des années, je ne faisais pas de conférences, mais j'aidais les instituteurs de Douai à répondre aux questions des CM2, car vous savez que c'est l'âge, CM2 et 6e, où ils posent des grandes questions. Bon, j'ai fait ça pendant des années, on était 6-7 dans un parloir, et à une fin d'année, les papas qui assistaient à mes topos m'ont dit « Mais vous devriez faire ça pour tous les parents du collège. » Et c'est l'origine de mes conférences. Et je me suis rendu compte que c'est des questions toutes simples. Le bouquin qu'on connaît le plus de l'abbé d'Escoumont, c'est ce petit livre de poche, hein, qui vient d'être édité pour la 12e fois, parce que c'est un livre, on appelle ça de l'apologétique, c'est-à-dire qu'on répond aux difficultés des gens. Le plus génial, évidemment, en langue française, ce sont les pensées de Pascal. Pascal a préparé une apologie de la religion chrétienne, où il montre que la religion chrétienne est meilleure que les autres, etc. Il prouve, hein, bon. Mais comme il est mort avant d'avoir terminé son travail, il n'en est resté que le brouillon génial des pensées. Donc c'est l'apologétique. On essaye de répondre aux questions que les gens se posent. Quand je prends des autostoppeurs, on en prend beaucoup moins maintenant, parce que les gens font beaucoup. Et dû écouter un tas d'autostoppeurs, ils me posent les mêmes questions que les polytechniciens, c'est vrai, hein. Des gens qui sont vendeurs dans une grande surface, qui n'ont aucune qualification professionnelle, devant leur télé, ils se posent exactement les mêmes questions. La religion chrétienne est-elle meilleure que les autres? Qu'est-ce qu'ils me disent que le Christ est ressuscité? Pourquoi est-ce qu'on faisait? Pourquoi baptiser les petits-enfants, etc., etc. Donc, je ne prends que 3 questions, parce qu'elles me semblent importantes. Comment je me débrouille devant les mystères? Demain, je verrai si c'est vrai ce que nous racontent les évangiles. Parce que si le Christ, c'est vrai, l'histoire, quand je suis rentré au séminaire, c'était la seule chose qui m'intéressait. Je n'avais pas envie de donner ma vie à un Jésus qui n'existe pas. Puis je réserve le meilleur pour la fin, après-demain, parce que c'est contesté par de grands intellectuels catholiques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut offrir quelque chose à Dieu quand on souffre ? Alors, pour le dire tout de suite, André Malraux, qui n'y croyait pas, vous aurez fait 6 heures de cours là-dessus, tout en vous disant tous les quarts d'heure qu'il n'y croyait pas. Hein? Si je mets une croix sur ma poitrine, ce n'est pas seulement pour me rappeler que Dieu m'a aimé juste à ce point-là, c'est pour me rappeler que mes croix, je peux les offrir à Dieu. Ce qui est unique dans l'histoire des religions. Ce qui est la grande bonne nouvelle. Bon. La semaine dernière, j'avais 2 polytechniciens dans mon auditoire de retraite. Ils ont buté là-dessus. Une objection intelligente. Bon. Donc je rappelle que pour être chrétien, il faut croire à des mystères énormes. Je pense qu'il y en a au moins 52 par... Non, j'avais envie de faire un bouquin avec 52 chapitres, hein, par dimanche. L'éditeur m'a dit 36, ce serait déjà pas mal. Non. Un seul Dieu en 3 personnes. Et quand vous voyez l'icône de Roublov, là, c'est pas 3 personnes qui discutent, ils se mettent d'ensemble. 3 personnes, mais qui n'ont une seule intelligence. On n'y comprend rien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne se mettent pas d'accord, ils n'ont qu'une seule intelligence. Ils n'ont pas chacun leur intelligence. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dieu qui prend un corps comme le nôtre. Dieu qui fait pipi. Les Japonais qui aiment énormément notre littérature catholique, qui traduisent tous nos auteurs catholiques, n'acceptent pas le christianisme. Il n'y a pas 1% de Japonais chrétiens. 900 000 catholiques et protestants sur 120 millions de Japonais. On ne peut pas dire qu'ils sont idiots, ces gens-là, hein? Ils butent là-dessus. Dieu qui va aux toilettes, enfin. Quand je pense qu'il y a encore des professeurs qui disent que le christianisme méprise le corps, ça mérite un zéro pointé dans un oral de HEC, ça. Qu'est-ce que tu viens de dire, que le christianisme méprise le corps? Alors que les chrétiens disent qu'il a pris un corps pour toujours, Dieu, qui s'est coltiné un corps de chair. D'ailleurs, vous savez que ça a été la première hérésie chrétienne. La gnose des intellectuels, ce sont des intellectuels qui ont toujours des difficultés devant ces choses-là. Dieu n'a pas, il n'avait pas vraiment, Jésus n'avait pas vraiment un corps, il a fait semblant d'avoir un corps. Mais ce n'était pas vraiment un corps. La preuve, c'est qu'il n'a pas été conçu par les autres, comme les autres. Et donc, il y a toute une littérature des premiers chrétiens là-dessus. L'évangile de Judas, par exemple, dont on a tellement parlé il y a quelque temps. C'est un évangile gnostique. Jésus dit à Judas, toi t'es plus malin que les autres, tu sais que mon corps c'est pas vraiment mon corps. Hein. Alors dépêche-toi de me tuer, tu me rendras service. C'est loin d'être idiot. Mais c'est pas le christianisme. Et dans le ciel, Dieu, il a un corps pour toujours. Il n'y a aucune religion qui dit un truc énorme comme ça. Ressuscité, il conserve un corps. Bon, bien sûr qu'il ne va plus aux toilettes maintenant. Bon. Il est ressuscité le troisième jour, sous Ponce Pilate. J'aime beaucoup Jean Guiton, le philosophe de l'Académie française, avec un grand ami, un croyant, Couchou. C'est d'ailleurs Couchou qui a amené Jean Guiton chez Marthe Robin. Et un jour, Jean Guiton entend son ami lui dire, votre credo c'est pas mal quoi, mais il y a 3 mots qu'il n'accepterait jamais, c'est sous Ponce Pilate. L'éternel dans notre histoire. Pourquoi pas sous Pompidou, hein, sous Ponce Pilate, hein? C'est énorme, ça. Vous avez... Je sais pas... Je crois qu'il doit y avoir au moins les 2/3 des profs de philo en France qui n'y croient pas. C'est le gros problème d'aujourd'hui, on va le voir. Ils sont voltairiens, même dans l'enseignement catholique. C'est pas de leur faute. Ils butent là-dessus. Pourquoi y aurait-il un lieu particulier où Dieu aurait parlé? C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes de Benoît XVI. Je ne sais pas comment il va le résoudre. En Inde, il y a beaucoup de jésuites. Il y a 1000 jésuites en Inde qui ont du mal là-dessus. Est-ce que les Upanishads hindous ne pourraient pas remplacer l'Ancien Testament? Ils ont du mal à penser que Dieu s'est manifesté d'une façon spéciale en Occident, alors qu'ils sont un peuple extrêmement religieux. Non, il n'a pas parlé en Inde, il a parlé en Asie, mais de l'autre côté, dans le Proche-Orient. C'est énorme, ça.
Il y a comme ça au moins 50 mystères. Oui.
L'Eucharistie, ça vous... Maintenant, vous allez communier comme un seul homme. Mais au XVIe siècle, vous avez des millions de chrétiens qui ont abandonné la foi en l'Eucharistie. On n'est quand même pas des anthropophages. On ne mange pas le corps du Christ. C'est un symbole. Non, des gens bien plus intelligents que nous, bien plus généreux que nous, qui butent sur le mystère de l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la Providence. J'en parlerai après-demain. On vend même dans les librairies catholiques des livres qui nient la Providence. Après la Shoah, on ne peut plus croire que Dieu mène le monde. C'est vrai qu'il y a 10 jours, j'étais à Auschwitz, c'est pour la première fois, c'est vrai qu'on se pauvre. Comment Dieu a pu permettre des choses comme ça? Bon, voilà. Donc, c'est vrai que comment je fais devant tous ces mystères?